Nous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Le commissaire a tout noté. Il dit au médecin : vous allez me faire une copie de tout ça. Est-ce que le cerveau peut répondre aux questions ? Le professeur lui dit : ce serait très compliqué, mais si vous le désirez, nous verrons. Et le professeur raccompagne le commissaire. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Puis le commissaire va voir son supérieur dans son bureau. Gilbert Franblanc est innocent. Le cerveau de Georges, qu'on a mis en marche, nous a montré la scène du crime. C'est Daniel qui l'a tué. Le chef lui dit : tant mieux, nous allons libérer de suite ce jeune homme. Ouf. C'est ce qu'ils ont fait. Gilbert est libéré et est retourné chez ses parents qui sont heureux de le recevoir. On a arrêté Daniel qui trouve que c'est injuste. Parce qu'il se dit honnête homme, son crime, il n'y pense plus, que c'est une histoire ancienne, d'une autre vie. Il trouve injuste qu'on l'arrête pour une chose, d'une autre vie. Maintenant, il est un autre homme. Il est mené au dépôt. On lui donne un avocat, comme il n'en a pas, on lui donne un d'office. C'est Maître Texier, le défenseur des causes indéfendables, celui qui est capable de dire qu'un criminel à la Potio est un brave homme et que s'il a tué, c'est la faute à la société. Tout est la faute à la société. Donc, tout criminel est innocent. C'est un homme grand, mince, cheveux abondants, blanc, costume à coupe, excentrique, poivre, robe d'avocat faite chez Cardien, nœud papillon. Les journalistes l'aiment beaucoup parce qu'il dit tout, même les choses que l'on ne doit pas dire ou qu'on ne doit pas divulguer dans une enquête, tant qu'elle n'est pas finie. Et puis, c'est un beau parleur qui fait rire les gens, donc c'est bien pour l'audimat. Chaque fois qu'il apprend qu'une affaire indéfendable ou l'avocat de la défense a perdu d'avance, où l'accusé a commis les pires crimes d'une façon horrible, sadique, etc., il prend l'affaire parce que plus une affaire est indéfendable, plus pour lui ça lui fait de la pub. Car une affaire horrible intéresse le public et là on en parle. Tandis qu'une petite affaire toute simple, un petit crime idiot fait comme ça, sur la colère n'intéresse personne. Donc, pour avoir les journalistes, il faut traiter des gros crimes bien horribles et indéfendables. Comme c'est plus et comme c'est indéfendable, ça lui permet de dire tout et n'importe quoi, ce qui fait rire le public. Un avocat pense à sa carrière avant tout, avant l'accusé. Donc cet homme illustre qui vit dans un hôtel particulier à Versailles, Rolls domestique, qui a comme femme la fille d'une des plus illustres familles de France, le prince des Cours d'Orsay, homme connu des hautes bords, etc., etc. Cette femme, cette grande femme blonde, moderne, de 28 ans, alors que lui en a le double, organise à chaque procès des soirées pour aider son mari. Pourquoi cette illustre famille a-t-elle donné une de ses filles, il y a une de ses 8 filles, il y a encore 7 garçons, à cet homme si roturier qui aide les gens du peuple et qui se dit de gauche en vivant dans un luxe royal? Eh bien parce que la famille se devait d'avoir un de ses membres dans la justice, dans la magistrature. Alors ils ont donné cette fille, cette oie blanche, à ce vieux corps blanchi. Lorsque Maître Texier a entendu dans les couloirs que l'on recherchait pour la défense un avocat pour l'affaire que l'on sait, il a couru chez le magistrat et lui a dit « Cette affaire est à moi ». Il a tout de suite téléphoné à des journalistes pour leur dire, il les a reçus à 15h dans son bureau. Une cohorte de journalistes, photographes, caméramans, preneurs de son sont sur le lieu dans son bureau. Il leur dit « J'ai une grande nouvelle à vous dire. Je prends la défense de Daniel Deux et je le fais libérer pour manque de forme et atteinte à la vie privée. On a osé, c'est de prendre une dernière scène de la vie d'une personne. Vie intime de cette personne pour accuser une autre personne. Ceci s'appelle violation, violer l'intimité de la vie privée. On n'a pas le droit car plus personne n'est libre, plus personne n'a de vie privée si on agit comme ça. Imaginez un pays autoritaire, ce que risque de devenir la France si elle vote à droite. Le pas des soldats SS risque de résonner une fois encore chez nous et les corps, les camps de concentration de se rouvrir si vous votez à droite. gauche, autrement vous êtes de sales fascistes. Nous imaginons une France votant à droite. La police qui est toujours à la botte des nazis pour savoir ce que fait le citoyen. Leur suffit, c'est de tuer des personnes pour connaître la vie privée des concitoyens. Vous voyez ce que c'est une arme dangereuse. Où t'es, où l'on est sur la liste comme pour accuser ce pauvre jeune homme, victime de la société. On l'accuse de ce crime parce qu'il est homosexuel. Souvenez-vous de l'étoile rose. En réalité, est-il victime d'être homosexuel? Le pire est une lutte contre, le procès est une lutte contre homo. Un journaliste lui demande, et le crime? Il répond, quel crime? Qui est la victime? La victime qui n'a rien demandé? Ou notre criminel? Le criminel qui lui demande justice? En vérité, je vous le dis, la victime est le criminel. Et puis, laissons les morts parmi les morts. Paix à leur âme. Ils ont bien mérité qu'on les laisse tranquilles. L'affaire n'est pas une affaire criminelle, comme vous la fait croire, mais une affaire sur la liberté individuelle. L'accusé est la justice qui s'enlit de son qui abuse de son pouvoir. La victime, c'est l'accusé. Voilà, messieurs. Les journaux, il y a des titres en première page comme « Des juges pourris, fascistes, veulent juger un homme parce qu'il est homosexuel. La chasse aux sorcières commence, recommence. Maître Texier, l'avocat de la défense, est là et sa femme organise des soirées pour soutenir la croisade de son mari. La femme de Maître Texier est la 8e fille du prince de Condorcet. Maître Texier va voir son client à la prison. Il est accompagné de journalistes. Il leur dit, avec la presse comme témoin, on ne va pas m'interdire de voir mon client. Et il entre seul dans la prison.
Allez, 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 plus vite, tournez-vous contre le mur.
Directeur de la prison le reçoit. C'est un homme habillé de noir, cheveux châtains, sec dans les 50 ans. Il lui dit, maître, le prisonnier est au parloir. Le tétier lui dit, je ne parle pas au directeur du camp. Et on le mène au parloir. Daniel est assis sur un banc, près d'une table. Il se lève. Maître Tétier va vers lui et lui dit, venez dans mes bras, que je vous embrasse sur les lèvres. Daniel, surpris, lui dit, non merci, pas la peine. Tétier lui dit, je veux montrer au monde que je n'ai pas peur d'embrasser un homosexuel. Est-ce que je n'ai pas peur du sida? Daniel furieux lui dit, mais j'ai pas le sida. Oui, mais vous êtes homosexuel. Daniel lui dit, pourquoi est-ce que vous avez dit à tout le monde que je l'étais? Ma grand-mère ne le savait pas et elle est dans tous ses états. Il lui dit, vous êtes une victime. Le vrai procès, c'est votre homosexualité. Ne vous en faites pas. Ils n'ont pas le droit de vous juger. Parce qu'ils s'y ont fait un viol. Ils ont violé contre la vie privée. Vous êtes une victime. Daniel ne comprend rien à tout ça et lui dit, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas trompé d'affaire? Le tétier lui dit, non, pas du tout. Tétier va voir le premier magistrat. Son bureau est une grande pièce meublée Louis XV. C'est un grand homme à cheveux gris, le regard dur mais distingué. Il porte un costume trois pièces et sa robe est ouverte par-dessus. Il n'aime pas ce textier, mais en a peur. À cause des médias. Lui, c'est le contraire. Il travaille dans l'ombre. Il lui dit, je vous écoute. Texier lui dit, voilà maître, il faut arrêter. La procédure est libérée. Le prisonnier. Coupable. Le prisonnier coupable. Par manque de forme dans la procédure. Le procureur lui dit, comment? Je ne vois pas. Tétier lui dit, voilà, peut-on être victime et le témoin de son crime? Est-ce que chacun peut être témoin de ce qui lui arrive? Il n'y a pas de tierce personne qui informe ce qui dit le témoin, victime, est-ce valable? Et si la victime est témoin, alors pour la justice, il faut que l'accusé aussi soit témoin. Le procureur a réfléchi et se dit que l'on ne peut pas accuser une personne pour le témoignage d'un témoin qui est en même temps victime. La personne fait deux rôles et lui dit « Je comprends, mais que faire ? Puisque de toute façon, il est coupable. Il faut bien le juger. » Mais si on l'accuse et en même temps un témoin qui est la victime, mais Tessier lui dit, on pourrait c'est le libérer par manque de forme. Le procureur lui dit, si nous faisons ça, certains vont nous traiter de sales gauchistes. Nous sommes du côté des criminels, etc. Non. Mais nous pouvons, c'est par esprit de justice, et même si ça ne sert à rien, c'est faire la même chose au tueur, de faire un accusé témoin. avec le même matériau. » Mais Tessier lui dit « Très bien, bonne idée. » Mais Tessier se dit qu'il va aller tout de suite le dire à la presse, aux journalistes, et ça va lui faire de la pub en plus. L'avocat va voir le médecin dans la clinique Jeune Touriquin. Le médecin le reçoit à son bureau. Je vous écoute. L'avocat lui dit, voilà, pour des raisons de justice, il faut que vous fassiez la même chose que vous avez fait pour la victime. Ou coupable. Voir dans son cerveau s'il dit la vérité et lui faire revivre la dernière scène. Professeur Laurie lui dit, c'est impossible, il faudrait le tuer. Mais Tessier lui dit, au nom de la justice, faisons-le. Puis nous la quitterons après. Quand Laurie lui dit, mais s'il est mort, on ne peut pas la quitter. Si, par contumace, la justice a toujours une solution pour rendre justice. Le professeur Laurie lui dit, c'est comme pour la médecine, une opération a toujours réussi, même si le malade est mort. Une opération réussie parce qu'elle a été faite dans les règles, ce qui ne veut pas dire que le malade n'en réchappe. Nous sommes responsables que de notre bon travail et non de la guérison. Ce serait injuste autrement. Si c'est le contraire, nous prendrions pour ne pas être ennuyés que des petites maladies et qui est facile à soigner pour ne pas avoir des ennuis. Et que j'ai en plus du travail que je fais ici ne prend que des appendicites et des amygdales. Et encore, on peut mourir d'appendicite, l'avocat lui demande. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? D'appendicite. Le médecin lui dit, je pense que l'on pourrait, peut-être, c'est le mettre comme dans un coma profond. Comme ça, on pourrait dire qu'il est comme mort. Maître Tessier lui dit, oui, je vois, je suis tout à fait d'accord, surtout qu'on ne peut pas demander à un médecin de tuer son témoin. Maître Tessier va dire au procureur de la République ce qu'il a décidé avec le médecin. Le procureur accepte la chose. Puis, Maître Tessier va prévenir Daniel à la prison de ce qu'ils ont décidé de faire. Daniel lui dit, et si je vous dis de vive voix ce qui s'est passé, ne pas me faire ça? L'avocat lui dit, par esprit de justice. Pour vous, oui. dont vous devez subir la même chose. Il lui dit, pas la peine, je vous le dis maintenant, comme ça. L'avocat lui dit, non, il vaut mieux que ce soit dit dans les règles. Mais je ne veux pas être mis dans le coma. Alors, on va être obligé de vous tuer pour vous acquitter ensuite. Mais je serai mort. La justice ne s'occupe pas de ce genre de détails. Elle n'a qu'un but, c'est la justice. Et pour cela, elle est prête à tout, même à tuer la personne qu'elle doit défendre. Au nom de la justice. Au nom de la justice, c'est la vérité.
Tournez-vous contre lui.
Au nom de la justice, c'est toute la différence entre la justice et un criminel. Daniel est mené en fourgon à la clinique. Au laboratoire du docteur Laurier. Le médecin le fait rentrer dans une chambre. Je vais vous faire une piqûre qui va vous mettre dans le coma. C'est-à-dire que vous allez perdre connaissance, mais nous allons vous... Ensuite, nous allons vous prendre à l'ordinateur pour voir toute la mémoire que vous avez en tête. Une fois la chose faite, nous essaierons de vous réveiller. Des fois, vous pouvez rester dans le coma une semaine, ou 6 mois, ou 10 ans. Êtes-vous prêt ? Daniel lui dit, j'aimerais mieux c'est que je puisse parler comme ça. Je vous dirai tout ce que vous voulez. Le médecin lui dit, oui, mais que vous le fassiez comme ça. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morvetti.